Merci, merci d'être venu ce soir malgré la pluie, malgré la SNCF, malgré tout ça. Donc voilà pour cette rencontre proposée par Jérôme de QSF que je remercie chaleureusement parce que c'est vraiment très sympa d'organiser voilà, une rencontre avec Sylvie, avec Pierre et merci à vous d'être venu jusqu'à nous pour qu'on parle un petit peu de vos recueils de nouvelles respectifs et voilà je suis certain qu'on va passer une très bonne soirée tout entre nous tranquillement. Et donc Jérôme, je te laisse la parole si tu veux bien faire explorer ces univers fabuleux.
Ces deux livres. est-ce que tout le monde connaît Pierre Bordage et Sylvie Lainé? Ou pas encore? Ouais, il y a des livres là. Ça va aller vite. Pierre, vous avez, et si vous ne l'avez pas encore fait, il faut absolument lire Les Guerriers du Silence, qui a 25 ans.
24. 24. Je me vieillis pas trop.
Ouais, pardon, excuse-moi. Donc, Les Guerriers du Silence, qui n'a que 24 ans. Il faut aussi lire Wang. Il faut lire La Fraternité du Pancar, grand space opéra, qui a quelques années, pas très loin. Il faut tout lire de Pierre Bordage. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez le space opéra.
Tu dis pas combien, en fait.
C'est vrai, tout. Est-ce que vous avez lu hier, je vous donnerai des nouvelles. Non, bon. Bon, ben voilà. On va donc parler science-fiction, 25 ans, quarantaine de livres.
50.
50? On n'était que 40. De 50.
Après, 50. Ça dépend si tu comptes les cycles, on a un livre.
Ouais, c'est ça. Livres. Avec en plus de la jeunesse, avec bientôt de la fantaisie chez nos camarades de Bragelonne. Ouais. Et Pierre, qui est aussi auteur de grandes sagas, mais aussi de recueils de nouvelles, vient de sortir aux éditions de La Talente ce petit recueil dont on va parler. Beaucoup de science-fiction, un petit peu de fantaisie.
Ouais.
À l'intérieur. Et puis à ma droite, à votre gauche, donc. Sylvie, l'aînée, auteure presque locale, puisqu'elle est de Lyon, donc c'est pas très très loin. Voilà.
Surtout quand la SNCF est de bonne humeur.
Voilà, alors. Normalement, c'est pas très très loin. Sauf quand c'est.
Est-ce que t'as déjà vu la SNCF de bonne humeur?
Ça peut arriver. Auteur de science-fiction, auteur plutôt de nouvelles et essentiellement de nouvelles, qu'on suit aux éditions ActuSF depuis plus de 10 ans maintenant, puisque le premier. 10 ans, puisque le premier recueil est arrivé en 2007. Je ne dis pas de bêtises. Et là, on fait l'intégrale de ces quatre recueils de nouvelles en un seul et même bouquin qui s'appelle Fidèle à ton pas balancé, qui fera très joli chez vous, sur votre salon. Vous allez voir, c'est trop bien. Pour commencer, et c'est marrant parce que quand deux écrivains se rencontrent dans une voiture, on commence déjà à parler d'écriture. Donc ils ont déjà, on a déjà fait la conférence, hein, pour de vrai. Peut-être on va juste commencer sur vous. La raison pour laquelle vous écrivez de la science-fiction, et puis après on va dériver un petit peu sur vos ouvrages. Qui veut commencer? Allez, Sylvie.
Honneur aux dames.
Alors, pourquoi de la science-fiction par rapport à du mainstream?
Oui.
Alors, parce que ça me permet de parler de tous les sujets dont je pourrais avoir envie de parler, mais de le faire en les renouvelant, en changeant un peu le point de vue, en décalant quelque chose. Donc, du coup, je peux parler de choses qui seraient peut-être convenu ou banal si je les prenais au premier degré et sur le plan du quotidien, et ça les renouvelle complètement. Et pour moi aussi, c'est génial de les prendre sous cet angle-là, parce que en général, je parle. Enfin, moi, ce qui déclenche l'envie d'écrire une histoire, c'est de me trouver face à quelque chose que je comprends pas ou que je n'accepte pas. Et de le prendre sous l'angle de la science-fiction, ça résout rien, mais ça permet de prendre le problème différemment, de le voir sous un autre angle. Et du coup, c'est une libération quelque part, même si c'est pas même si ça n'apporte pas de solution pour autant. Et la science-fiction, plutôt que de la fantasy ou un autre genre de l'imaginaire, bah, c'est peut-être parce que déjà je suis une scientifique au départ, que j'aime bien que. Oui, mais j'assume, on se battra après si tu veux. Et j'aime bien la cohérence. C'est pour moi ce qui fait tenir la fiction. J'aime bien que ce soit cohérent et crédible à tous les niveaux et que ce soit aussi cohérent du point de vue du cadre, de la société, de ses échelles de valeurs, de ses mécanismes, de ses règles. Et la science-fiction m'oblige à travailler ça. Donc j'aime bien les contraintes quand elles facilitent la créativité.
Pierre ?
Alors c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, mais pourquoi vous écrivez de la science-fiction? Il y a tellement de choses à dire sur notre monde et tout. Et puis je savais pas pourquoi j'en faisais, enfin ça me plaisait tout simplement. Hein. Parce que mon premier livre de science-fiction que j'ai lu, qui est assez tardivement, à l'âge de 19 ans, c'est Chronique martienne de Ray Bradbury. Et j'ai éprouvé immédiatement un vertige, c'est-à-dire un décollage de mon réel pour partir très loin dans l'espace très rapidement, qui crée un toboggan, c'est comme un effet toboggan, que j'adore en fait. Que j'ai relié aux mythologies que je lisais quand j'étais enfant, qui me crée ce même effet de vertige. Et après, en réfléchissant, donc naturellement, et découvrant la science-fiction et cet effet que ça procurait, je me suis mis à en écrire, parce qu'en tant qu'auteur, je voulais éprouver ce même vertige. Et puis après, en réfléchissant, ça m'arrive, de temps en temps, à force de me poser la question de savoir pourquoi j'écrivais la science-fiction, j'ai vu trois attraits au genre. Premièrement, proposer un merveilleux voyage. Un voyage extraordinaire au sens de Jules Verne, donc cet effet vertige dont on parlait tout de suite. C'est-à-dire qu'on va être décollé de son réel. Deuxièmement, quand on est décollé de son réel, et c'est là où on peut rétorquer ça aux gens qui disent qu'on ne parle pas de notre présent, on parle beaucoup mieux du présent. C'est-à-dire que le décalage permet de voir, comme disait Sylvie, les problèmes en germe dans notre présent de façon nouvelle. C'est l'effet fourmilière, vous montez au haut de la fourmilière, vous voyez les mouvements d'ensemble qui se passent, vous voyez, vous pouvez presque être, vous placer en sentinelle pour amener une réflexion au lecteur. Voilà. Je vais prendre un exemple, les OGM, bon, voilà, on ne prend pas le temps de la réflexion pour des motifs évidemment économiques. Seuls les auteurs de science-fiction prennent cet espace de réflexion pour pouvoir dire, on se projette dans 200 ans, qu'est-ce qui va se passer si les OGM s'imposent. Donc ça, c'est très intéressant. On a vu les deux grands exemples, c'est Le meilleur des mondes et 1984, où on a à la fois la biotechnologie et puis la surveillance globale qui sont abordées longtemps à l'avance par des auteurs de SF. Je suis trop long ?
Non, non, c'est très bien.
Troisième intérêt, et là je relis directement en mythologie, c'est l'interrogation philosophique fondamentale, ou l'interrogation spirituelle, ou l'interrogation métaphysique, ou si vous mettez le mot que vous choisissez, c'est-à-dire que ça reprend les vieilles thématiques déjà abordé par les mythologies il y a fort lointain, comme disait Shrek. J'ai des références. C'est très intelligent quand même, hein, comme tout le monde. Alors l'exemple que je donne souvent, c'est le mythe de Gilgamesh, le mythe sumérien, qui aborde le problème de l'immortalité. Peut-on trouver l'immortalité? Comment? Etc. Or, nos sciences de biotechnologie, par exemple, nous amènent à se poser ces questions sur l'immortalité. Donc la science-fiction réfléchit sur des thèmes qui sont déjà très anciens et qui apportent aussi une réflexion de nature plus philosophique, plus fondamentale que les problèmes en germe dans le présent. Voilà. Donc trois intérêts qu'on retrouve dans le genre et qu'on a du mal à retrouver ailleurs. C'est vrai que je viens de faire de la fantaisie, donc j'ai trahi le genre. Dans la fantaisie, on est plus branché directement sur la mythologie, donc c'est plus une interrogation sur les choses fondamentales de l'être humain. Dans tous ces états, hein, avec ces archétypes, on travaille beaucoup les archétypes en fantasy, qui sont le guerrier, le mage, etc. Et donc, c'est un autre type de réflexion qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, mais en fait, j'ai du mal à écrire, je suis en train d'en faire un là quand même, j'ai eu du mal à écrire sans qu'il y ait un petit décalage imaginaire qui donne un peu de piment à la chose.
Quelle est la part entre l'intention de parler d'une problématique réelle ou de science, ou d'OGM par exemple, ou de choses comme ça, et la part de l'histoire? Qu'est-ce qui prédomine au début d'une nouvelle ou d'un roman? L'intention de parler de quelque chose ou une idée d'histoire?
Ça dépend des nouvelles. Moi, c'est assez rare que ce soit un élément scientifique qui me fasse démarrer. En général, c'est un élément humain. J'aime bien mettre des personnages, les confronter à des gens qui ont des cultures différentes, des manières différentes d'appréhender le monde. J'aime bien les vertiges culturels, j'aime bien relativiser l'échelle de valeur ou la morale qu'on a en utilisant des espèces un peu différentes ou des sociétés sont basées sur d'autres principes. Mais il y a eu au moins une fois où je suis partie sur ce principe-là pour une nouvelle récente qui s'appelle Le Karma du chat, qui était dans la revue Galaxy. Mais je suis même pas sûre que j'avais envie de parler de technique, j'avais envie de parler de domotique, c'est-à-dire d'une maison qui serait peuplée d'appareils et même d'animaux qui sont des petits robots. Mais en fait, c'était pas eux qui m'intéressaient. C'était la manière dont les propriétaires de la maison avaient envie d'interagir avec ces créatures-là. Et mon point de départ, c'était... Il y a de plus en plus de gens qui ont une philosophie, un rapport au vivant un peu bouddhiste, en retrouvant des valeurs de respect de la vie, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes. Et je trouvais très intéressant d'imaginer que cette espèce d'empathie avec l'univers, ils l'avaient avec leurs petits robots, avec l'aspirateur, avec le réfrigérateur, avec le chat qui est un minou 2.0. Et ça permettait, bon, je ne vous dis pas comment ça se termine, mais ça, c'était une situation extrêmement intéressante comme point de départ.
Ouais. Je pense à la nouvelle, par exemple, Opéra Chaya, où il y a beaucoup question de génétique et oui. d'échange d'ADN.
J'y connais rien en biologie. Hein. Quand j'ai dit que j'étais scientifique, moi, je viens plutôt de l'informatique. Donc, la biologie, je suis nulle.
Juste pour l'Opéra Chaya, donc une jeune femme qui arrive sur une planète où elle va échanger un petit peu d'ADN avec la faune, la flore. Pareil, on parle de génétique, on a une vraie histoire. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement, de cette histoire-là?
Ben, je crois que j'avais envie de parler de rencontres, de la manière dont on essaie de s'adapter aux gens qu'on rencontre si on a envie de vivre une histoire d'amour avec eux, par exemple. Mais dans mon histoire, c'est devenu biologique littéralement, c'est-à-dire que la planète vit des genres d'histoires d'amour avec ses visiteurs, en intégrant un peu d'ADN de manière à se transformer. Et c'est peut-être une histoire science-fiction premier degré, mais en même temps, moi, je l'ai écrit un peu comme une métaphore de la rencontre. Et ça permet d'explorer quels sont les pièges vers lesquels on va quand on essaie de faire vivre une relation en s'adaptant à l'autre et en essayant de lui ressembler. C'était un peu ça dont je parlais, en fait. Ça se passe plus ou moins bien parce que je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions. Moi, je n'ai pas encore trouvé, c'est un aveu public, mais je n'ai pas encore trouvé comment on faisait pour vivre une histoire d'amour longue, réussie et pleinement satisfaisante. Donc, ça fait partie des trucs que je cherche dans mes histoires. Et je fais des expériences de toutes sortes. Pas forcément qu'avec des êtres humains. Il faut faire ce qu'on veut dans la fiction.
Pierre, même question. Alors, sur le décalage entre qu'est-ce qui prédomine dans un récit que tu vas raconter, est-ce que c'est l'histoire ou l'envie de parler d'un sujet?
Alors, ça dépend des moments, ça dépend.
Ouais.
Parfois, ce sont les personnages qui m'imposent leur histoire. Et j'ai envie de partir avec des personnages, c'est donc l'élément humain qui prédomine. Ça, c'est le guerre du silence, par exemple, j'ai envie de partir avec des personnages. Quoi. Et parfois, ça va être un déclencheur différent. Alors. La lecture de Jérémy Rifkin sur le siècle biotech m'avait inspiré d'un bouquin qui s'appelle Les Fables de l'Impur, qui est une réflexion sur la chimère. Donc là, je suis parti avec cette idée-là en tête, et puis c'est l'univers qui s'est créé à partir de cette idée, ou bien dans la trilogie des prophéties, ou bien où c'était les relations entre les religions, enfin que je voyais poindre des religions et des guerres de religions futures, qui m'a inspiré, l'évangile du serpent, l'ange de l'abîme et les chemins de Damas, qui est plus une réflexion sur le poids des religions dans notre société, sur la place qu'elles occupent, enfin, etc. Et sur les dangers qu'elles peuvent créer pour les sociétés diverses. Quoi. Et après, les personnages sont venus pour illustrer ça. Donc ça dépend vraiment des moments. Je suis en train de réfléchir sur Wang. Par exemple, Wang, c'était une réflexion plus géopolitique sur la séparation nord-sud, richesse, pauvreté, protection, mur. Mur, ouais, ça rappelle des choses. On va faire des murs, là, on refait des murs. Et je pense qu'il y a toujours cette tentation du mur qui, à mon avis, est un grand aveu d'échec de la civilisation humaine. Dès qu'on fait un mur, ça veut dire qu'on se retire, on se retranche. C'est une illusion, non seulement c'est une illusion, mais c'est une insulte. Et voilà, donc Wang, toute la thématique de Wang est venue sur cette réflexion-là, c'est-à-dire une grande barrière électromagnétique qui empêche les migrants d'entrer en Occident. Évidemment, ils sont attirés, tant des portes s'ouvrent et les migrants entrent en masse pour des usages qui sont à découvrir par la suite, qui ne sont pas forcément très agréables. Donc ça dépend vraiment, quoi. L'angle d'attaque, il est différent selon les projets, les sujets, les envies.
D'accord.
Monsieur,
oui.
T'as dit que tous les deux, un des points communs de notre présence ensemble aujourd'hui, c'est le fait qu'on est tous les deux en train d'écrire des nouvelles en ce moment. Enfin, moi, oui. Je fais que ça. Et
ouais,
Pierre, Pierre disait dans la voiture qu'il commence à apprécier d'écrire des nouvelles
ouais.
et à trouver ça agréable. Et justement, l'intérêt des nouvelles, Tu seras d'accord, puisqu'on le disait dans la voiture. C'est que.
Donc, tu n'as pas le choix.
L'intérêt des nouvelles, c'est qu'on peut varier les projets. On n'est pas. On peut avoir toutes sortes de projets. Ce n'est pas des projets qui nous occupent pendant des années et des années. Donc, justement, c'est une bonne manière de faire des expérimentations, la nouvelle.
Alors, ce qui est intéressant dans les nouvelles, moi, je ne suis pas un novelliste naturel. Je suis venu par le roman. La nouvelle, il fallait que je sois provoqué. C'est-à-dire qu'on me dise, on aimerait bien que tu fasses une nouvelle sur tel sujet.
Chiche.
Fiche. Et à la limite, j'aurais aimé qu'on me demande à faire un truc sur le bottin mondain ou le bottin téléphonique pour voir si je pouvais en tirer quelque chose d'intéressant. Parce que c'est des sujets que j'aurais jamais eu l'idée d'aborder sinon. Et donc, souvent, il y a beaucoup d'anthologistes en science-fiction, il y a beaucoup de sollicitations pour les nouvelles, pour les auteurs. Et donc, on nous dit, bah, si tu voulais faire une nouvelle sur tel sujet, là, par exemple, là, il y a dans le recueil, là, hier, je vous donnerai mes nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles qui sont issues des anthologies des Imaginales, où on nous imposait deux figures archétypales de la fantasy. Donc, Reine et Dragon, Reine et Dragon, Reine et Dragon, enfin,
Assassin.
Assassin et. Non, Elfe et Assassin.
Bourreau et Assassin et.
Non, Bourreau et Victime, Bourreau et Victime, Elfe et Assassin, etc. Et ça m'intéressait beaucoup parce que je ne serais jamais allé m'affronter à ces archétypes-là de mon gré. Donc là, je me suis mis dans l'obligation d'écrire quelque chose là-dessus. Et, ça, et vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que la forme courte permet d'explorer l'écriture sous toutes ses formes, de tenter des choses, parce qu'il y a moins d'investissement émotionnel que dans le roman où on va
partir. Ah, ça, je conteste. Hein. L'investissement émotionnel, il peut y être. Mais là, sur moins longtemps, en tout cas.
Oui, ce que je veux dire, c'est que si tu rates ton effet dans la nouvelle, c'est pas très grave, t'as pas perdu trop de temps. Avec roman, si tu le rates, t'as perdu plusieurs mois. Ce qui est une grosse différence.
L'écriture sous contrainte, comment est-ce que tu t'organises? Je pense notamment à une nouvelle qui s'appelle Toi, que j'ai bu en quatre fois.
Ah oui, alors là, c'est toi le responsable. Ouais. Mon éditeur préféré nous a mis au défi d'écrire des nouvelles érotiques. C'est un sacré défi d'écrire une nouvelle érotique. Je sais pas si
c'est le pire des défis.
C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a des règles à respecter, mais qu'on n'a pas forcément envie de tomber dans la trivialité, qu'on a un problème. Moi, j'ai eu un problème très concret de vocabulaire. Je ne savais pas quel niveau de vocabulaire employer pour que ça sonne comme je le souhaitais. Et surtout, j'avais envie d'écrire une vraie histoire de science-fiction. Donc, ça en faisait un sacré paquet des contraintes. Eh bien, plus il y a des contraintes, plus l'exercice est difficile. Je suis comme Pierre, plus je me régale à aller jusqu'au bout. Et quand on réussit à faire un truc qu'on n'aurait jamais imaginé faire un jour, le plaisir, il est 10 fois plus grand. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais, sur l'émotion. À la fois en tant que lectrice et en tant qu'auteur, je suis autrice, ça ne sonne pas bien. Pour moi, la charge d'émotion, elle est bien plus intense souvent dans la nouvelle que dans le roman. Parce que dans la nouvelle, on est complètement immergé. Si on fait la comparaison avec une piscine, pour moi... un roman, c'est un truc dans lequel on rentre tranquillement, l'eau est un peu froide, on se mouille, voilà. Et on y va en douceur, on n'a pas un gros choc thermique.
Ah, mais ce qu'il en faut.
Alors que la nouvelle, on plonge direct. Donc c'est assez brutal en général. Et moi, ça fait partie de mon plaisir, l'immersion brutale. Enfin, pas dans l'eau froide, mais dans une bonne fiction, oui.
Pension en
Bretagne. Je comprends ce que tu veux dire. Je pensais investissement émotionnel long. Enfin, le roman, tu suis des personnages sur une longue distance. Et c'est un investissement de temps, d'énergie, qui fait que tu as intérêt, et l'éditeur aussi, à ce que ce soit réussi. Une nouvelle, si elle n'est pas réussie, c'est pas très grave. Moi, j'ai pas perdu trop de temps. Tu vois, c'est aussi con que ça. Et pour moi, la nouvelle, c'est une mécanique de précision aussi. C'est quelque chose qui doit être très, très dégraissé, très, très direct, très abrupt. Et c'est pour moi vraiment un formidable exercice de laboratoire d'écriture parce que justement, ça permet d'essayer des choses qu'on n'oserait jamais essayer dans le roman, de peur de foutre en l'air le roman si on y met trop d'audace. Quoi. La nouvelle, on peut se permettre toutes les audaces, puisque si la nouvelle est ratée, elle est ratée. Bon, voilà, l'éditeur nous dira, elle est ratée, et puis on n'a pas perdu trop de temps. C'est vraiment une question de temps. Quoi. Moi, je sais pas combien de temps tu mets pour écrire une nouvelle.
J'en ai. Ça n'a rien à voir avec leur longueur. Il y en a que j'ai écrit en 8 jours et il y en a que j'ai écrit en 3 ans ou 4 ans. Donc,
Ah ouais, c'est pas rentable ton truc.
Ah bah, c'est absolument pas rentable. Je te déconseille totalement d'essayer de vivre en étant auteur de nouvelles.
Je crois mais, que je vais passer mon tour, ouais.
Mais alors, moi, comme j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, je fais quand même. J'ai un travail qui m'occupe beaucoup à côté. Je ne consacre du temps et de l'énergie à écrire une nouvelle que si j'ai vraiment envie de l'écrire. C'est-à-dire que si la nouvelle ne m'enthousiasme pas, je ne dépasserai pas la première page. Jamais. Si j'ai l'énergie d'aller jusqu'au bout, c'est que au moins moi, elle me passionne. C'est aussi pour ça que je ne vous dirai pas combien d'années j'ai mis pour écrire ça. Bon, certes, c'est un joli pavé. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait un pavé un jour. Mais si je veux le dire, ça fait quand même 30 ans que j'écris pour sortir ça. Donc là, c'est pas une grosse productivité.
Toi, c'est 3 mois.
Pierre, c'est 3 mois.
Je parle pas des délais parce qu'après, les éditeurs, ils en tirent des conséquences. Après, ils s'aperçoivent que je bande souvent.
Tu devais le rendre pour la semaine prochaine, non?
On a eu cette discussion-là sur les délais aussi.
Je disais qu'il fallait diviser par 3, que l'éditeur doit diviser par 3, parce que lui dirait l'autre, puis rentrer chez 20 en plus. Par rapport à ce que lui dit l'auteur.
Mais c'est au moins aussi sur les délais qu'on vous donne. Enfin bref.
Oui, oui. Parce qu'ils donnent une deadline, par exemple en juin, sachant que pour eux c'est le novembre.
Ouais, une marge de sécurité.
Tout le monde triche en fait.
Mais là on est vraiment.
C'est pas un joli milieu hein, tout ça.
Ouais, c'est des failles temporelles.
Ouais, l'éditeur est sévère, mais juste quoi.
Oui.
Dans son truc. Hein. Et, évidemment. Je reviens sur les thématiques du recueil et sur la petite cuisine de l'inspiration. Dans ce recueil, il y a notamment 3 nouvelles autour des migrants et ouais. De l'immigration.
Ouais.
C'est donc, peut-être que tu peux nous en parler, une thématique qui te porte en ce moment. Est-ce que ça veut dire que tu scannes aussi l'actualité, t'en prends des brides?
Ouais, il est évident que l'actualité a une influence. C'est le bruit du monde, et le bruit du monde, il rentre dans le cerveau, puis ça fait de la mélasse là-dedans, et puis ça ressort d'une façon ou d'une autre après. Ce qui m'intéressait dans le. Par rapport aux migrants, il y a une sorte d'égoïsme global et général qui fait qu'on ne veut pas partager ni les bouts de terre, ni les ressources. Mais globalement dans le monde, hein. Il n'y a pas que les histoires de migrants. Mais je me suis dit, finalement, les choses peuvent être renversées à tout moment. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut être nous, les Américains, ou d'autres peuples qui auront besoin de migrer. Pour une raison, pour des catastrophes climatiques, pour plein de raisons. Et ce qui est d'ailleurs décrit dans Le jour d'après, le film, où les Américains sont obligés de se réfugier au Mexique. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme idée, parce qu'il y a toujours des renversements possibles. Lié aux aléas de l'évolution. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que si nous, on se mettait dans la peau du migrant, comment est-ce qu'on vivrait les choses? On se trouverait probablement légitime en tant que migrant. Et ceux d'en face ne nous auraient pas légitimes du tout, mais ils nous camarderaient avant qu'on puisse. Puis pour les nouvelles que j'ai écrites là, il y avait aussi l'idée de renverser le rôle, c'est-à-dire que les Américains sont perçus, ce sont les Américains qui émigrent en Europe hein, par bateau, ils sont perçus comme des parasites, alors que quand ils sont venus en 1945, c'était des sauveurs. Donc c'était juste pour renverser les perspectives. Ça me paraît toujours intéressant de renverser. Ce que permet beaucoup le genre SF, c'est de renverser les perspectives. C'est-à-dire quand on se met à la place d'un alien, quand on tout ça, ben on se rend compte que finalement nos systèmes de pensée sont un peu étriqués, un peu tout fait, un peu difficiles à bouger. Et donc l'ASF a cette particularité d'essayer de faire bouger les lignes, de déplacer le point de vue, ne serait-ce que d'un degré ou de 2 degrés, pour permettre de voir les événements sous un angle différent. Et ça, ça fait vraiment la beauté du genre.
C'est une thématique qui revient à 3 reprises, si ouais. Je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça veut dire que quand tu as écrit la première nouvelle, tu... T'avais l'impression de ne pas avoir tout dit, t'avais besoin d'un deuxième
non,
texte.
C'est des circonstances, tout ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un novelliste naturel. On m'a donc invité à faire une nouvelle sur la guerre climatique. Donc cette nouvelle, j'ai écrit cette nouvelle qui n'est jamais. Ça ne s'est pas fait, le recueil ne s'est pas fait, donc la nouvelle n'avait jamais été publiée. Et puis Libération m'a demandé un texte sur la même chose. sur le climat, ce que ça pouvait devenir. Donc j'ai renversé la perspective. Dans la première, ce sont des migrants, on les voit dans leur bateau, et l'accueil que leur fait la bonne vieille Europe, c'est-à-dire des coups de fusil, ou des coups de Kalachnikov, c'est russe, Kalachnikov. Et ensuite, pour la nouvelle de Libé, je suis parti du principe qu'on voit du côté de ceux qui sont chargés de surveiller les plages et qui vont tirer sur les gens qui arrivent. Sauf que, bon, je vous dis pas la fin de la nouvelle de Libé, mais voilà, il y a une petite pirouette finale.
Oui.
Ouais.
Non, il veut pas le dire.
Donc la pirouette finale, c'est le colonel qui a fait
le nouvel achat. Il faut pas dire l'achat.
C'est toujours le colonel Moutarde, quoi qu'il advienne, avec un chandelier. Sylvie, pareil sur les idées qui prédominent. Là, on voit qu'il y a un rapport à l'actualité qui est fort. Comment est-ce que toi, ça, la petite cuisine de l'intuition, tout le monde de la création.
Ouf. Alors là, je me rappelle d'une interview que j'avais fait. De Robert Sheckley, à qui j'avais posé cette question-là. Je lui avais dit, en gros, le truc qu'on a tous envie de demander, d'où te viennent tes idées, comment est-ce que les idées arrivent.
T'as vu, surtout, que je l'ai dit différemment.
Oui. Non, mais c'est une super question.
Mais où allez-vous prendre tout
et,
ça.
Je ne sais pas si vous connaissez Robert Sheckley, c'est un nouvelliste, mais c'est un des grands humoristes de la SF, qui est un type, un auteur extraordinaire. Et donc, je lui avais posé la question à lui, parce qu'il avait vraiment des idées extraordinaire et surprenante, et il m'avait répondu écoute, c'est comme la poule aux œufs d'or, si jamais tu lui ouvres le ventre pour essayer de voir comment ça marche et comment elle fait pour pondre, elle pondra jamais plus. Donc je ne veux pas réfléchir à la manière dont ça se passe, je ne veux surtout pas la comprendre, parce que je suis persuadée que si je savais comment ça marche, je ne pourrais plus écrire. Bon, c'est pas pour me défiler, mais on sait pas trop d'où nous tombent les idées. L'actualité fait partie de ma vie, donc de toute façon, c'est des bribes de ma vie, c'est des moments de doute. Puis il y a des trucs, je sais absolument pas d'où ils viennent. Tu parlais de point de vue et de se mettre dans la peau d'un alien. Moi, j'ai quand même écrit une nouvelle où je me mets dans la peau du tas de sable sur lequel les humains sont en train de marcher quand ils débarquent sur une planète. Donc, c'est quand même un point de vue légèrement différent de celui d'un être humain.
Ouais. Tu peux nous parler des sapinous ?
Les sapinous, oui. j'essayais de couper la sonnerie pour être sûre. C'est pareil, on m'avait sollicité, c'était ActuSF cette fois-là qui m'avait sollicité pour écrire une nouvelle sur une nouvelle dont le principe était pas de violence, pas de conflit.
Oh là, ça va être pénible ça.
Moi ça m'embêtait pas trop parce que finalement il n'y en a pas tant que ça dans mes nouvelles. Je pense que c'est un peu pour ça que celui qui est venu m'en chercher, qui n'était pas Jérôme, qui était Laurent Gidon, je pense qu'il a pensé à moi aussi. Parce que c'est un peu ma marque de paf de fabrique de ne pas avoir des méchants qui se tabassent tout le temps. Mais du coup, j'ai écrit une histoire de collaboration entre espèces, mais qui en fait est une histoire d'un type qui a faim et qui cherche quoi manger. Et cette histoire, bon, moi je me suis beaucoup fait rire en l'écrivant. Il y a des... je ne peux pas trop la raconter non plus, d'ailleurs elle est très courte, mais il y a des sapinous qui sont des espèces locales qui en gros ressemblent à un sapin et sautent à cloche-pied et une fois que j'avais écrit l'histoire de l'explorateur sur sa planète, j'ai été invitée à faire une intervention dans un lycée où ma camarade Jana Debats faisait travailler les élèves sur la question du point de vue. Et elle m'avait dit, je vais la faire travailler sur la nouvelle avec le tas de sable, un amour de sable dont je parlais tout à l'heure. Parce que en fait, j'ai une histoire racontée en alternance du point de vue des humains qui débarquent et du point de vue de sable, qui est une créature intelligente dans laquelle les humains mettent le pied en arrivant et sur laquelle ils vont faire des expériences. Et elle voulait les faire travailler là-dessus et elle ne savait pas trop comment. Et donc, je lui ai proposé de reprendre cette histoire avec des sapinous, et qui était une histoire assez loufoque. Mais eux, les élèves, s'était engagé, mais je leur avais promis que je le ferais aussi de mon côté, à raconter l'histoire du point de vue des autochtones qui voyaient arriver cet explorateur convoyeur de myrtilles qui avait très faim et qui était un peu perdu.
Il ne pouvait pas manger ses myrtilles ?
Ben, il n'aime pas trop les myrtilles, visiblement, il a envie de manger autre chose. Donc les myrtilles, il leur trouve un usage qui... En gros, il va se peindre avec les myrtilles pour être tout bleu et ressembler à un sapinou, ce qui lui permettra d'entrer en contact avec une autre espèce. Et...
On a dit que c'était scientifique. Hein. Vous vous souvenez ?
C'est un très bon exemple.
Ce qui m'a fait rigoler, c'est que du coup, deux auteurs dans une voiture discutent et vous avez un peu le même élan dans l'écriture. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des gens qui programmaient toute l'histoire d'abord. Est-ce que tu peux nous...
Alors, selon Francis Berthelot, on est classé en deux catégories, scripturant, structurant, ou les Canadiens disent plus joliment jardinier, architecte. Donc l'architecte, c'est celui qui va faire son plan avant de commencer quoi que ce soit. Le plus précis possible, au millimètre près.
Il sait où il va.
Il sait où il va, il sait ce qu'il va faire, il peut vous dire qu'au chapitre 17, il se passera telle chose, etc. Et puis il y a les autres, les jardiniers, qui eux arrosent. Ils laissent pousser l'herbe et l'écriture. Et c'est l'écriture qui impose. Moi, si je fais un plan, je suis mort. Enfin, le livre est mort. Quoi. Ça ne m'intéresse plus de l'écrire. Donc il faut que je découvre le livre en train de s'écrire au fur et à mesure qu'il s'écrit, et que je laisse l'écriture organiser la logique du roman. C'est des fois, parfois, un petit peu angoissant parce que vous ne savez pas où vous êtes. Parce que quand vous commencez un livre, vous creusez une mine. Il y a la lumière qui vous guide, la lumière de l'entrée. Puis à un moment, vous creusez tellement loin qu'il n'y a plus de lumière ni à l'entrée ni à la sortie. Et donc ça s'appelle le noir absolu. Et là, on est suspendu à son propre noir et il faut se faire confiance. Et moi, parfois, j'avais une perte de confiance. Et quand ma femme était de ce monde, j'allais la voir et je lui disais, écoute, ça va pas le bouquin que je suis en train d'écrire, c'est vraiment n'importe quoi et tout ça. Il dit, oui, tu as raison, retourne travailler. Oui, d'accord. je retournais travailler, puis je finissais le livre et le livre trouvait sa propre logique au fur et à mesure. Donc il faut se faire confiance en permanence dans ce système-là. Je suppose que les architectes ou les structurants, ils ont besoin de se faire confiance avant. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas où ils vont, ils ne peuvent pas commencer. Et j'ai discuté avec des gens qui sont des purs structurants, type Alain Poussette. Et ils ne peuvent vraiment pas faire autre chose. Donc c'est vraiment des natures d'auteurs différentes. Et je pense que l'intérêt, c'est de trouver sa propre nature, sa propre voie d'écriture qui ne ressemble pas forcément à celle du voisin.
Moi, je peux raconter une anecdote là-dessus. Donc moi, je suis un jardinier comme Pierre, mais je crois qu'on est à peu près... quand on écrit des nouvelles, on n'a pas besoin d'être un architecte. Pas autant, en tout cas. Moi je l'ai rarement été pour des novellas où je savais vraiment assez clairement, pour Les yeux d'Elsa où je savais assez clairement ce que je voulais raconter et comment ça allait, comment les événements allaient s'enchaîner, là oui j'avais un canevas, mais là j'avais un projet impérieux, il fallait vraiment que je l'écrive cette histoire, mais la plupart du temps c'est pas le cas, mais une fois dans ma vie j'ai eu un projet d'écriture à quatre mains avec un petit camarade qui n'avait pas une grande expérience en tant qu'auteur, mais qui avait une super idée pour un sujet sur des bases scientifiques relevant de l'astrophysique qui n'était pas du tout mon domaine, et on avait vraiment tous les deux envie d'écrire ensemble. Mais on a été tous les deux incités à cause de cette idée de collaboration, et puis bon, c'est vrai que peut-être qu'il n'était pas très rassuré. Il n'avait pas une grande expérience de l'écriture, on a commencé à préparer complètement l'histoire. Mais en fait, on préparait pas l'histoire au sens structurel récit, on s'est mis à développer qui étaient les personnages. Puis on s'est mis à se raconter, on a dû s'échanger 70 pages de mail au moins, pour une nouvelle qui en aurait fait 30 pages, on s'est raconté leur vie, on s'est raconté... ce qu'ils aimaient comme musique, comment on a mis tout en place, le contexte beaucoup plus loin que ce dont on avait besoin, et puis on a tellement exploré ça sous tous les angles qu'après on s'est aperçu qu'on n'avait plus du tout envie d'écrire l'histoire.
mais
on avait déjà tout exploré, donc il n'y avait plus de plaisir.
J'ai l'impression que les architectes ou structurants ont vraiment des problèmes avec l'écriture, parce que c'est pas ce qui les intéresse. Non, mais j'ai discuté beaucoup avec ce qui les intéresse, c'est de monter des structures. Donc après l'écriture, c'est l'habillage, et c'est pour nous, c'est le plaisir absolu de l'écriture. Pour eux, c'est la corvée, puisque le truc est fait. Et anecdote avec Alain, dont on a parlé tout à l'heure, Alain Grousset, qui, avec qui j'ai coécrit Gigante, on a créé une planète ensemble. Et moi, pour son grand malheur, c'est moi qui commençais l'histoire. C'est-à-dire, j'étais avant lui, il devait faire son bouquin après mon histoire. Et lui, il me collait au basque, vous savez. Et parce qu'il voulait absolument avancer dans son récit, mais il dépendait entièrement de mes informations. Donc il m'appelait tous les matins en me disant, alors là, tes personnages vont devenir quoi ? Je dis, je sais pas. Il dit, bah non, on peut pas travailler comme ça. Je dis, bah si, moi je travaille comme ça en tout cas. Et puis il me dit, tu sais que je dois m'occuper du petit-fils après, donc il faut qu'il conçoive tes personnages. Tu prends ça quand ? Je sais pas. J'attends le bon moment.
Ils sont pas inspirés.
J'attends le bon moment. Et c'est vraiment une très très grande différence. Je sais qu'il travaille avec Daniel Martinigol. Ils se répartissent les chapitres avant. Oui. Tu fais le 1, le 7, le 12, le 13, le 15, le 19. Et moi je fais cela. Et lui, il aime bien les chapitres où il y a de la bouffe. En fait. Il se les réserve. Mais voilà, et c'est des natures tellement différentes qui sont incompatibles. Enfin, travailler ensemble, c'est simplement l'horreur. Parce que moi, je suis angoissé par ses coups de fil quotidiens. Et lui, il est angoissé par le fait que je ne lui transmets pas assez d'informations pour qu'il puisse structurer son récit. Donc, bon, voilà, c'était une expérience assez marrante. Et il me dit, jamais plus je travaille avec un structurant. Il me dit, moi, j'ai jamais plus travaillé avec un structurant.
T'as écrit beaucoup en collaboration ? Enfin, ça
alors, j'ai écrit Mission Mother avec Mélanine, où là c'était plus c'était très libre. C'était selon l'inspiration du moment, donc ça m'allait bien. Et j'ai écrit quoi encore ? J'ai écrit aussi un truc qui s'appelle Graine d'Immortel, qui était un projet d'éditeur. Donc, faut se méfier des projets d'éditeurs, hein, Jérôme ?
Oui, bien sûr. Faut se méfier des éditeurs, du coup.
Parce que le projet d'éditeur, c'était des enquêtes scientifiques, des thrillers à base de technologie. Et donc on avait un scientifique dans un certain domaine, moi c'était la biotechnologie, qui était adjoint à l'auteur pour donner des crédibilités à son récit. Et il y avait une bible de personnages, c'est-à-dire que tous les auteurs, on était 12 auteurs, devaient se partager les mêmes personnages. Et ça, c'était une contrainte assez redoutable. Qui a fait qu'il fallait à la fois se servir de ce qui avait été prévu par l'éditeur, c'est-à-dire le personnage tant, avec telle arme, avec tel comparse, et puis mettre sa propre création là-dedans. Donc ça a été une expérience assez étonnante pour moi.
Une dernière question en tant qu'auteur. Le plaisir, c'est quoi ? C'est de se raconter des histoires ou de raconter des histoires ?
Pour moi, c'est clairement de raconter des histoires. Je me raconte rarement des histoires à moi-même par le menu. Le plaisir, c'est quand l'histoire prend forme avec des mots et que les mots sonnent justes et disent quelque chose. Je vais vous dire un truc très bête, mais il m'arrive de relire des trucs que j'ai écrits il y a longtemps et d'avoir le plaisir du lecteur, tout bêtement.
C'est la même chose.
C'est pas comme si quand des textes qu'on a écrits il y a longtemps, on les relit pas comme pendant qu'on est en train de les écrire. On est très distancié. En même temps, on a un auteur qui vous parle particulièrement bien. À vous, il vous comprend. On le comprend. Mais pour moi, le plaisir, c'est quand les histoires prennent forme avec des phrases, avec des mots, avec une ambiance. C'est le plaisir du texte. C'est moi. Il est très lié à mon plaisir de lecteur. C'est un texte, c'est comme les gens qui aiment la musique ont du bonheur à écouter certaines chansons ou certaines ambiances sonores. Moi, j'ai du plaisir par certains textes, par leur musicalité, leur ambiance, la couleur des mots. Et c'est le plaisir de produire ça, moi, qui est essentiel.
Alors, je suis tout à fait comme Sylvie, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est raconter des histoires de façon la plus fluide et la plus réussie possible. Donc mon travail à moi, c'est d'accueillir l'histoire qui me traverse, et de l'accueillir par l'écriture. Et c'est le boulot de tous les jours, c'est le travail de construction permanent sur le roman, par exemple, c'est très très long parfois. Donc c'est vraiment le plaisir de raconter, le plaisir d'amener le lecteur dans quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, etc. Il y a toujours dans ma tête le lecteur au bout. Il n'y a pas que moi, il y a le lecteur qui est là. Non pas que j'écrive en fonction de ce que désire le lecteur, hein, mais en fonction de ce que le lecteur va ressentir. Et j'essaie de lui faciliter la tâche en ayant une écriture la plus fluide et la plus transparente possible. Je prends souvent l'image, la différence avec la littérature générale, peut-être, attention s'il y a des amateurs de littérature générale, la littérature générale souvent fait des vagues à la surface de l'eau pour qu'on voit les vagues. C'est l'écriture, et c'est tout à fait noble en soi, je veux dire. C'est l'écriture qui est prédominante. L'auteur de l'imaginaire, ou l'auteur, le conteur, lui va faire en sorte que l'eau reste très calme pour qu'on voit le fond. Voilà. Donc c'est ça la fluidité de l'écriture, c'est que nous, conteurs, parce que je pense qu'on fait partie de la confrérie très ancienne des conteurs, c'est de faire en sorte que l'histoire soit le mieux perçue possible par le lecteur. Comment ? Ah ben merci. Voilà moi ou ben, j'ai senti. On se voit après si vous voulez. Et quand je relis le texte globalement, je travaille vraiment comme une partition de musique, on a parlé de musique tout à l'heure. Je traque les fausses notes qui pourraient sortir le lecteur, inconsciemment ou non d'ailleurs, de la lecture. Ah, quelque chose qui va pas. Comme les incohérences d'ailleurs.
Une phrase qui sonne pas bien, ça décroche, hein, c'est horrible. C'est
et comme tu parlais de l'érotisme tout à l'heure, et ça, alors là, le nombre de pièges qui guettent l'auteur qui écrit de l'érotique, c'est hallucinant, quoi. Parce qu'on peut faire sortir un lecteur en deux coups de cuillère à peau, c'est-à-dire en choisissant le mauvais mot au mauvais moment, ou en étant trop mièvre, ou en étant trop pornographique, ou en étant trop vulgaire, ou en étant trop plein de choses. Et donc ça fait partie du boulot, c'est vraiment un travail musical, je trouve.
C'est joli de terminer par un travail musical.
Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment. Oui, Claire.
Vous avez parlé de l'actualité, de ce que ça pouvait inspirer dans votre culture. Ça m'a fait penser à une phrase de Claude Pen qui dit qu'on parle bien du présent qu'on en parlant du futur.
Ouais.
C'est ce qui fait pour moi la science-fiction est une des littératures les plus engagées. Et je voulais savoir là-dessus, est-ce que vous vous sentez dans une culture engagée ?
Qui disait engagement.
Ah, complètement. Moi, je trouve que la science-fiction est la seule littérature qui parle vraiment du social, c'est-à-dire qui se préoccupe pas uniquement des individus, des humains. On parlait des émotions. Elle s'en préoccupe, mais elle se préoccupe beaucoup des sociétés, de politique, de systèmes. Et ça, c'est un vrai enjeu. Moi je suis allée parler science-fiction aux Nuits Debout. Enfin, il y a des tas de connexions qui se créent partout, forcément, parce qu'on a des choses à dire sur ce qu'on vit tous comme citoyens, comme sur ce qui se passe autour, oui. Donc oui, voilà, moi c'est forcément.
Alors l'engagement. L'engagement, je me méfie beaucoup de ce terme. Parce que. Comme je disais tout à l'heure, moi, le principe de base, c'est que j'écrirais pas si je n'espérais pas, de façon très orgueilleuse, changer un petit peu quelque chose dans l'esprit du lecteur. C'est-à-dire faire déplacer son point de vue, simplement, même d'un millimètre. Quoi. En revanche, je me vois mal l'embarquer dans un système de pensée. Parce que tout fait, vous voyez, sur ce que devraient être les choses ou comment devraient évoluer les choses. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si on peut trouver des visions ou des solutions neuves, inusitées en tout cas, qui ne soient pas... des mécanismes très anciens qui se reproduisent et qui vont conduire aux mêmes catastrophes. Lisez La ferme des animaux de George Orwell et vous avez à peu près toute la description d'une révolution et de comment elle termine en général. Vous pouvez l'appliquer à la révolution française, à la révolution russe, à la révolution cambodgienne, à tous les types de révolutions. Donc c'est plutôt essayer de réfléchir, de proposer au lecteur, d'essayer de sortir des systèmes de pensée conditionnés pour essayer d'avoir des événements, de la vie, des choses, une vision un peu neuve. J'avoue que j'inclus la spiritualité là-dedans. Attention, ne partez pas, tout va bien. La spiritualité n'étant pas du tout la vision religieuse. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de libre et qui conduit à la liberté intérieure et qui permet peut-être à l'être humain de prendre vraiment conscience de ce que c'est l'être humain. Je pense qu'on n'a pas atteint l'humanité. On a parlé des post-humains l'autre jour aux Utopiens en permanence. Je pense qu'on n'a pas atteint l'humanité, on pense déjà post-humanité, et je pense qu'il est urgent de retrouver l'humanité. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de faire dans mes livres, c'est de trouver l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité ? vaste question à laquelle on n'a pas de réponse. Ouais. Très peu, quoi. Mais capable du meilleur et du pire. Pourquoi c'est quoi ces espèces de mécanismes qui nous poussent toujours à faire les mêmes conneries, à nous massacrer les uns les autres, au nom de Dieu, au nom de plein de choses différentes. C'est quoi notre malédiction? Est-ce que c'est ça le péché originel ou... Je crois pas au péché originel, hein, mais enfin, vous voyez, symboliquement, est-ce que c'est cette espèce de malédiction humaine à laquelle on n'arrive pas à mettre un terme, bien qu'on progresse sur le plan technologique, sur le plan scientifique, qu'on a les moyens de vivre beaucoup mieux, on est toujours dans des conflits, on est toujours dans des souffrances. Nous sommes, par exemple, les recordman du monde de consommation de psychotropes, donc pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? À quelle réponse on a, à quelle question on n'a pas répondu? C'est quoi les nouvelles voies d'exploration de l'humain? C'est ça qui m'intéresse plus que... Alors ça, c'est peut-être un engagement, je ne sais pas, ou un désengagement, si vous voulez, c'est comme la décroissance. Oui, ça, tout à fait d'accord. C'est vraiment fait pour faire réfléchir en disant, si on va dans cette direction-là, voilà ce qui risque d'arriver. On vous soumet à votre réflexion, faites ce que vous voulez avec, mais voilà ce qui peut se passer.
On n'est pas forcément des prophètes de malheur non plus, enfin pas tout le temps, si. Pas tous.
C'est bon.
Non, mais je le dis parce qu'il y a... Il y a un certain nombre de gens qui a priori rejettent la science-fiction en disant bon, on va encore nous montrer des fins du monde, des apocalypses épouvantables. C'est pas, il n'y a pas que en parlant d'une société qui court à sa perte qu'on peut parler, ben, comme disait Pierre, de ce qui fait l'humain et de ce qui nous rend si difficile le fait de vivre ensemble en harmonie. C'est...
Non, mais je disais par rapport à ce que vous disiez, que si on faisait déjà tout bien, est-ce qu'il vous resterait un prétexte pour écrire?
Oui, les utopies
nous,
sont hyper
content,
chiantes
hein.
À écrire. Les
on n'est jamais content voilà, de toute façon.
Parce que quand vous commencez un bouquin par une surtout, ils ont beaucoup d'enfants, ben, si l'enfant se drogue pas derrière, vous allez avoir du mal à faire une histoire. Non, mais c'est vrai. C'est, alors là, je vais reprendre le mythologie et un mythologue célèbre qui s'appelle Joseph Campbell, qui a écrit un essai qui s'appelle Le héros aux mille visages, où il dit que si des héros se lèvent, c'est parce que le monde va mal, il y a une disharmonie. Donc la disharmonie du monde sert à révéler les gens, en fait. C'est pour ça que Sylvie, tu disais, c'est pas toujours des fins de monde, des catastrophes, mais souvent c'est sombre, parce que c'est dans le côté sombre qu'on va se révéler les. Enfin, après, il y a plein de sortes de science-fiction, parce que le space opéra, par exemple, qui, à mon avis, est le refuge du merveilleux science-fiction, c'est différent. C'est plus mythologique aussi comme démarche. Mais dans la science-fiction d'anticipation, souvent, on se sert de l'anticipation pour attirer l'attention sur un problème particulier. Donc, on va noircir le problème, on va le grossir. C'est l'effet loupe, l'effet fourmilière. Là, on est en haut et on regarde ça et on voit ça de façon globale. Et donc, on va grossir le problème pour alerter. C'est comme des cris d'alerte. Pour que les gens disent « Ah oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire quelque chose maintenant pour éviter que ça arrive. »
Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur là ? Non, pas de soucis, non, c'est bien fort.
Ah, on a essayé en joulou, mais on n'y a pas réussi.
Pour un lecteur de SF, sortir de tout ce qui est en
traduction, ouais.
Alors que, si je prends l'honneur, on commence en 1792, en fait,
SF Nurnian, ça va pas ensemble.
C'est pas un blockbuster comme Game of Thrones en ce moment, c'est pas, on n'est pas dans Robin Hood, on a un truc que je retrouve avec Barthes Labelle, que je retrouve avec une culture française, SF. Enfin, comment vous faites?
Bravo,
alors moi j'adore ça, c'est pour moi c'est le meilleur des compliments, c'est faire des insomnies, se faire se chamailler les coupes parce que vous savez ma femme elle passe plus de temps avec vous Oui bah ouais c'est vrai et puis j'ai raté mon train à cause de vous, ça c'est bon ça. Ça c'est un beau compliment. Comment je sais, je vais reprendre ce que disait Sylvie tout à l'heure à propos de la poule aux œufs d'or, je ne sais pas, c'est de façon très spontanée en tout cas. Tout est spontané. Hein.
Et quand vous lâchez le stylo, vous relisez
Est-ce que je suis surpris?
Ouais.
Ouais, je suis surpris en permanence par ce qui se passe, parce que comme je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, l'enjeu mineur est un cas particulier, parce que l'enjeu mineur est un. C'est pas une chronie, c'est plutôt une fantaisie historique qui nécessitait une grosse recherche. Une énorme recherche sur le plan historique parce que je voulais être assez irréprochable sur le plan historique, donc je me suis dit si mon personnage il fait des périples, il faut que je sache à l'avance ce qu'il fait comme périple parce qu'il va traverser des villes, il faut que j'aille me renseigner sur ces villes, etc. Donc il devait partir par là et j'ai commencé le bouquin, il est parti par là après 4 mois de recherche, j'ai dit ok. Ouais, et donc après je me suis dit oui, j'irai chercher des informations quand j'en aurai besoin parce que ce sont les personnages qui décident. Mais dans le côté scripturant, pardon, jardinier au scripturant, ce sont les personnages qui prennent de l'importance. Les personnages décident. Les personnages sont autonomes, les personnages peuvent mourir. Alors, par exemple, dans Les Guerriers du Silence, un Longchupé, un chevalier Absurat, meurt, alors que je n'avais pas du tout prévu. Je pensais que ça allait être un personnage important. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu as fait mourir celui-là? J'ai dit, c'est pas de ma faute, il est mort. Je n'allais pas le ressusciter. Et dans l'enjeu mineur, après, les 4 mois de recherche m'avaient nourri quand même considérablement sur la langue de l'époque, je m'étais beaucoup renseigné sur les mœurs de l'époque, les déplacements, par exemple une diligence entre Nantes et Paris, ça met combien de temps, il y a combien de personnes dedans, il y a combien de chevaux, on s'arrête où, on mange comment, on fait quoi. C'est des questions à l'infini qui se posent. Ouais, donc j'avais abordé tout ça à peu près. Et après, je me suis senti à l'aise dans cet univers. Je m'étais interdit de mettre tout mot. Soyant apparu dans la langue française après 1792. Donc ça veut dire que je vérifie un mot sur deux du dictionnaire à peu près. Parce que j'avais des doutes, et puis mes doutes étaient fondés parfois. J'avais l'impression qu'un mot était très ancien, il était très récent. J'avais l'impression que le mot était très très récent, il était très ancien. Et pour les insultes, je me suis beaucoup basé sur les journaux de Marat. Parce qu'il y a un peu tous les 3 mots, il y a une insulte. Donc c'est cool. Après, l'alchimie, c'est la poule aux œufs d'or, l'alchimie qui se passe entre un auteur, l'écriture, ce qui va être retenu de l'écriture, ce qui va être important dans l'écriture, c'est tout à fait mystérieux. C'est difficile, enfin moi je ne peux pas l'analyser en tout cas.
C'est comme, moi c'est pour ça que j'aime bien la comparaison avec la musique. On ne sait pas pourquoi une mélodie est jolie, par contre quand il y a une fausse note, on l'entend. Donc je pense que quand on est auteur, on développe son oreille au sens où... On sent s'il y a des fausses notes et c'est quand même un truc un peu intuitif qui dit si ça sonne juste ou pas.
Oui. Après, il y a un équilibre entre personnages, construction des mondes. C'est mystérieux tout ça. La description, par exemple, Tolkien, il va me balancer 20 pages sur la description d'un terrier de Hobbit. Bon, c'est un peu beaucoup. Balzac, ça va être 20 pages sur une chambre de bonne. Apprendre peut-être à distiller les informations plus souplement, les éléments décor dont on a besoin. On n'a pas besoin de forcément de tout, on n'a pas besoin de savoir tout ce qu'il y a dans une chambre de bonne. On sait qu'il y a un lit et si on se sert du lit qui grince, bon, on va avoir du lit qui grince. Vous voyez ce que je veux dire, c'est donner les éléments de décor au moment où on en a besoin. J'ai essayé de travailler ça, mais bon, encore une fois, ça se fait spontanément.
Oui, et puis la musicalité de Balzac va peut-être résonner chez certains lecteurs.
Absolument.
J'ai envie même de rester en commençant cette chambre.
Absolument. Ou à Proust, c'est pareil. Ouais, ça va être des langues logorées. Bon, voilà, si on aime, si on est emporté par sa musique, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux vagues, quoi. On peut se laisser emporter par des vagues de l'écriture. et être bien dans les vagues de l'écriture et rouler sans arrêt dans les vagues de l'écriture. Je suis en train de faire un exercice comme ça actuellement, où c'est l'écriture en vagues. Bon, voilà, c'est...
Oui, mais des fois, moi j'entends bien ça, mais si je me trompe pas, je le rapporte beaucoup au style du coup.
Oui, c'est ça, c'est la musique, on parlait de la musique.
Des fois, dans un style très descriptif, on va plonger dans le visuellement dans l'univers, et c'est pas forcément pas pour le style, mais juste pour le lieu. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Il y a une maxime du Tao qui dit qu'une fois l'œuvre accomplie, l'auteur s'efface, et je crois que les auteurs d'imaginaire sont des gens qui s'effacent en permanence derrière leurs histoires. C'est beau ce que je viens de dire.
On avait encore une question,
alors, un peu
avec beaucoup
d'excès. Je vous
allez-y, vexez-nous.
En fait, ça vous embête pas, je le dis cache, ça vous embête pas, vu que le temps que vous y passez, que le travail d'écriture que vous mettez, d'être mis dans de gens, c'est-à-dire qu'ils sont traités comme les autres, parce que vos copains du polar, ils ont réussi, je trouve, à des évolutions. En fait, je suis bibliothécaire et j'ai...
C'est pas grave.
Non, ça ne soigne pas. Hein. Mais je veux dire, dans plein de bibliothèques, la SF et les polars, c'est à part.
Oui.
Et alors, à la fois, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça, autant les trouver. Mais voilà, c'est quand même pas traité comme de la vraie littérature. Vous voyez ce que je veux dire?
Oh oui, très bien.
Et du coup, c'est pas que j'adhère à ça dans ma question, mais je veux dire, il me semble que si j'avais pu être auteur au lieu d'être passeur de livres, vu tout le boulot, j'aurais choisi d'écrire la littérature générale, parce que je trouve qu'il n'y a pas la même reconnaissance. Enfin, est-ce que vous partagez ça?
Et je peux peut-être compléter, parce que moi ça m'intéresse, et moi je trouve que les auteurs du polar se battent depuis manchette pour être reconnus comme tels, et j'ai parfois le sentiment, est-ce que vous vous battez aussi, parce que tout à l'heure vous avez parlé de ça, de la littérature, je ne sais plus quel terme vous avez employé,
mainstream, j'ai dit,
voilà.
Blanche, générale,
voilà, est-ce que ça vous va, vous, d'être...
Est-ce que vous la faites vous-même, la distinction? C'est pas vous, ma question, donc...
Ben, c'est pas les mêmes éditeurs déjà, donc.
Non, moi j'ai un avis, j'ai un vrai avis là-dessus.
Moi, je vais d'avoir laissé parler. Je vais bien commencer. Il y a deux questions différentes. Je crois que ce qu'on a dit tous les deux, c'est qu'on avait énormément de plaisir à utiliser la science-fiction, parce que c'était un outil extraordinaire pour faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avec la littérature générale. Moi, j'ai essayé une fois d'écrire une nouvelle de littérature générale parce que je pensais que j'avais un sujet qui s'y prêtait, que j'avais un sujet qui était à la fois très dans le quotidien, mais avec un peu de poésie dans l'environnement. Et je me suis dit, je vais tenter le coup. Je l'ai écrit, la nouvelle. Je l'ai trouvée horriblement plate. Et je l'ai repris cette fois-ci consciemment en me disant il faut qu'il y ait de la science-fiction dedans. Donc pour ceux qui connaîtraient les nouvelles, c'est La Bulldeuse que j'avais écrit dans une première version comme une nouvelle de littérature générale qui représente la moitié de ce qu'est la nouvelle à l'arrivée. Mais moi je sais que ça m'embêterait. Je trouverais pas beaucoup de plaisir à raconter des histoires de vrais gens dans notre vrai monde, parce qu'on le connaît tous, et que je n'en dirai rien de plus que ce qu'on dit des centaines d'autres gens avant moi. Ce que tu disais, Thierry, sur... redis-moi ta question. Oui, est-ce qu'on fait des efforts pour être reconnus comme de vrais écrivains? Les auteurs de polar ont des histoires qui se situent dans notre vrai monde. Pour ceux qui considèrent que l'imaginaire... Quelques collègues m'ont dit ça quelquefois. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu un refuge pour échapper au monde, ce refuge dans les littératures de l'imaginaire? Bon, moi, ça me fait bizarre, parce que justement, j'ai l'impression d'être vraiment bien en prise avec le monde, même si je parle de manière décalée. Mais ils ont moins de difficultés que nous, parce que c'est un certain type d'histoire et de récit, mais qui se passe dans un monde qu'on partage tous. Pour nous, et je pense qu'on a une difficulté en France, en plus, on considère que l'imaginaire, c'est un truc bien pour les petits, pas pour les adultes, que les adultes ne devraient plus avoir d'imaginaire. Et ça, mais c'est d'une tristesse. Alors tiens, on se posait la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que la consommation de psychotropes est particulièrement élevée en France? Voilà, moi j'ai une réponse.
Lisez, c'est l'illuminé, quoi.
Prescription. Ouais.
Voilà. Et remboursé par la sécurité sociale.
Mais souvent, les gens nous présentent leur carte de sécu à la caisse.
Mais je suis pas si sûr, en fait. Je suis pas si sûr qu'il y ait un ostracisme. En fait, techniquement, nous vivons dans un monde de science-fiction. La culture geek, elle a gagné. Nous sommes dans un monde de culture geek. C'est-à-dire qu'on parle de Game of Thrones, c'est un énorme succès. Vous allez au cinéma, vous allez voir Seul sur Mars. D'accord ? Donc, techniquement, il n'y a pas de problème avec le genre en soi. Okay ? En littérature jeunesse, le genre qui marche, c'est la dystopie, c'est la science-fiction. D'accord ? Donc, tout le monde a vu Hunger Games. Enfin, pas moi, mais sans doute, hein. Il y a plein de gens qui ont vu Hunger Games, et c'est pas très grave, et tant mieux. Donc je pense que c'est un genre qui a gagné. En revanche, là où nous rencontrons plus de problématiques, c'est effectivement sur certaines bibliothèques, sur certains libraires, sur certains médias. Mais, à la vérité, si on change un peu de point de vue, Pierre vient de dire qu'il avait écrit des nouvelles pour Libération. D'accord ? Alain Damasio est régulièrement sur Libération. Nous rencontrons tous les trois des Utopiales, festival qui a accueilli 82 000 personnes. 82 000, d'accord ? C'est pas trois mecs boutonneux autour d'une pizza, quoi.
Ils y étaient aussi.
Ils y étaient aussi, ouais. Et ils sont venus avec leurs parents, quoi. Donc, nous avons un outillage qui fait que les auteurs de science-fiction ont aussi la parole, les auteurs de fantasy. Que nous ayons l'impression, parce que, en tant que lecteur, on n'est pas forcément connecté à ces mondes-là, qu'il y ait moins d'exposition médiatique. Peut-être.
Oui, mais c'est les médias c'est qui sont ringards.
Mais je suis. En tout cas, moi, je suis pas défaitiste. Nous avons un auteur qui vient de passer sur France Info. Putain, France Info, quoi.
Ouais. Des médias traditionnels.
Non, mais femme actuelle, le journal de ma maman. Femme actuelle, le journal de ma maman. Vient de me demander à SP, quoi.
Il appartient à ta mère, le
journal. Ouh, ouais. Non, mais qu'elle disait quand elle était jeune. Néanmoins, on a encore des blocages. Le festival du premier roman ne prend pas de roman de genre.
Il faut savoir des trucs. Ça va venir. Michel Houellebecq est un pur auteur de science-fiction.
Et puis il y a ça aussi.
Présidente.
Les auteurs de littérature générale viennent.
Ça va venir. C'est en débat.
Oui, oui. Et puis la possibilité du Nil, c'est un pur roman de science-fiction.
Évidemment. Voilà, évidemment.
Mais il faut pas le mettre. Faut pas le mettre.
Faut pas le dire. Oui.
Bernard Werber a un énorme succès, mais il ne met pas science-fiction sur ses bouquins.
La route
McCarthy, voilà.
Ah oui, oui, on rame encore. On rame encore, mais à la vérité, souvent par exemple, nous qui sommes en contact avec des libraires et des bibliothécaires, la difficulté n'est pas au niveau des lecteurs, elle est au niveau des libraires et des bibliothécaires. Nous avons souvent de temps en temps des difficultés, une méconnaissance ou un a priori de temps en temps. C'est à nous aussi d'aller, de faire des formations et ça roule.
J'irais même jusqu'à dire que les critiques littéraires sont des incultes. Non, mais ils ne peuvent pas parler science-fiction parce qu'ils n'y connaissent rien, donc ils jettent le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire ils disent, c'est nul. Mais parce que ça leur évite de se justifier de pourquoi c'est nul.
Mais les choses ont vachement changé. Hein.
Et j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'un jour, j'ai rencontré Jean-Christophe Ruffin au salon de la Guadeloupe, très bon salon que je vous recommande. Surtout l'hôtel, au bord de la plage, tout. C'était sympa. Et on avait discuté pas mal parce qu'il était dans le même hôtel que moi et on avait croisé notre trajectoire. Il disait finalement, les auteurs de SF, vous êtes comme les auteurs historiques, mais vous faites des histoires du futur, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on déterre une histoire n'existant pas, comme lui déterrait avec Rouge Brésil une histoire qui existait. Il a fait Globalia après et moi j'ai fait L'Enjeu mineur. Donc on a croisé les trajectoires. Et un jour, Michel Abesca, donc de Télérama au Salon du Livre, veut nous inviter tous les deux à discuter. Et donc il organise une table ronde avec Jean-Christophe Ruffin et moi. Et Jean-Christophe Ruffin a un problème de train au dernier moment. Son train est resté bloqué entre Paris et Genève, comme toi. Et lui, le ciel était vraiment bloqué, quoi. Et du coup, Abesca est tout seul avec moi. C'est la panique. Panique à bord. Hein. Il dit, j'y connais rien en science-fiction, je vous préviens. Tout ça. J'ai dit, posez-moi des questions naïves, comme ça on répondra à toutes vos questions en même temps. Hein, et puis ça permettra. Et à la fin, on a fait ça. Et à la fin du débat, il m'a dit « Merci, j'ai appris plein de choses ». Donc quand je dis que les critiques sont incultes, c'est qu'ils ne vont pas dans les genres science-fiction parce qu'ils ont peur de dire des conneries. Et d'ailleurs, dès qu'ils en parlent, ils disent des conneries. Et c'est ça qui est fou. Parce que Globalia de Ruffin avait eu une critique dans Télérama, ce qui est normal, c'était Ruffin. Il a été pris Goncourt et tout ça.
C'était la SF.
Et il disait, mais c'est incroyable qu'on puisse réfléchir sur le futur, comme ça et tout ça. Il disait, hey, les gars, on occupe le terrain depuis une trentaine d'années, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Vous savez qu'il y a eu une production très forte en France de science-fiction. Ouais. Oui, ça, c'est un peu commercial.
Vous seriez édité dans La Blanche, vous auriez peut-être ce papier-là.
Il y a un auteur qui a fait la transition, c'est Volodine.
Ayerdal aussi, il y en a eu plusieurs.
Ouais, Ayerdal aussi. C'est-à-dire des gens qui sont passés en littérature générale, Pierre mais toujours Pelot. Avec des petits arguments de SF d'ailleurs. Bon, ben après, le combat c'est à mener avec l'écriture. Hein. Après, voilà. Si des gens font un bouquin qui est correct sur le plan littéraire, ça suffira déjà pour.
Il y a Michel Jury qui est passé de la science-fiction à la littérature de terroir et qui nous disait à chaque fois qu'il nous retrouvait. J'aime bien, c'est des récits qui sont des récits de mon enfance, de ma jeunesse, qui me tiennent à cœur. Mais j'ai du mal avec mon public maintenant. Il disait, je regrette les amateurs de SF, le public de la science-fiction et les discussions passionnantes que j'avais avec mes lecteurs quand j'écrivais de la SF. Et il est revenu à la science-fiction sur la fin. Je pense que c'était vraiment... Parce qu'il était frustré de ne plus avoir de contact avec ce public. Parce qu'on aime les échanges d'idées, on aime les discussions.
Ouais, ça bouge pas mal, ouais.
Et on est un milieu très... Même si on écrit chacun dans son coin, on adore toutes les occasions de discuter entre nous.
Ouais,
tu parlais de discussions avec un auteur de littérature générale. Elles ne sont pas si fréquentes dans d'autres milieux littéraires que
le
nôtre.
C'est vrai. Il y a une vraie entente entre les auteurs du genre. Bon, on méprise un peu les auteurs de fantasy. Hein.
C'est pas pareil.
Et les auteurs fantasy jeunesse, encore. Il y a plein de paliers.
Mais vraiment, il y a des combats, mais c'est rigolo. Hein. C'est des étiquettes. Mon diffuseur-distributeur fait une soirée de rentrée littéraire devant des libraires. Donc moi, je dis, c'est tombé, on fait une rentrée de la fantasy. Invitez-nous. Quoi. Ah non, tu comprends, c'est que de la blanche. C'est sérieux. Quoi. Je dis, invitez-nous quand même. Pas grave, vous le dites pas. Hein, je viens faire mon speech et puis après ils découvriront que c'est de la fantasy quoi.
Il y a des barrières passées. J'ai eu un prix littéraire un peu particulier qui était le prix Cézanne des comités d'entreprise.
Ouais.
Oh, ouais, ça existe. Ouais. C'est un très beau prix hein, parce qu'après on gagne par région donc on a plein de spécialités régionales à chaque fois qu'on se déplace. Et j'ai rencontré les lecteurs des entreprises. Ils disaient, non, on ne lisait jamais de science-fiction. On ne se connaissait pas la science-fiction. Mais comme le livre avait été imposé pour le prix, enfin, était dans la liste des prix, donc ils étaient obligés de le lire. Et on a découvert que c'était vachement bien. Quoi. Voilà, il faut simplement passer cette barrière-là.
On a nous avons des bâtons de pèlerin tous autant que nous sommes. Ouais, c'est cool, hein. Après, c'est pas grave non plus, hein.
Non, on
c'est
survit.
Le genre d'empoisonnement, pour nous libraires, des fois, c'est pas évident de savoir.
Ouais, mais.
Tu sais, c'est
mille bouquins. Hein.
Ce livre, Le jour où la guerre s'arrêta. Donc, j'ai écrit, publié au Diable Vauvert il y a 2 ans. C'est pas du tout un livre de science-fiction, c'est un conte philosophique. Eh bien, les libraires ne savent pas où le mettre. Parce que je suis auteur de science-fiction, donc ils le mettent en science-fiction. Les lecteurs de science-fiction n'en veulent pas, parce que c'est pas de la science-fiction. Et les lecteurs non science-fiction ne savent pas qu'il existe. Et c'est un gros problème. Cool. Dès qu'on veut faire des...
Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça veut dire que dès qu'on sort du genre...
Dès qu'on sort du genre, voilà. Qui ça ?
Est-ce que...
Bassigalupi,
ouais. Oui. Oui. Il était aux Utopiales, là, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Oui.
La fille automate ?
Oui.
Flûte. Ferrailleur des mers et... Ça, c'est bon, c'est un outil.
Mais notre chance, c'est que Hunger Games se vend par palette.
D'accord ? Harry Potter se vend par palette. C'est cool, le rayon il est à côté. Notre enjeu à nous, c'est que les lecteurs qui vont dans ce rayon-là, un jour, viennent dans notre rayon. Parce que, effectivement, Fahrenheit 451, c'est cool aussi après avoir lu Hunger Games. Et notre job en tant qu'éditeur et auteur, c'est de faire des bons livres comme ça. L'enjeu aujourd'hui, c'est véritablement pour moi de siphonner un peu ce réservoir, quoi. C'est-à-dire de faire des passerelles. Après, si tous les lecteurs d'Hunger Games veulent venir lire Pierre et Sylvie, c'est que je suis pour. Hein.
Aussi, mais aussi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Le problème des lecteurs d'Hunger Games, c'est d'abord qu'ils changent des annonces, puis après, ils sont scolarisés. Oui. Donc, c'est vrai qu'ils lisent un peu, mais passer 18 ans, c'est un public qui échappe aux bibliothèques, je crois. Enfin,
ah ouais.
Mais ils sont d'amour après.
Et après,
ouais. Bah ouais.
Toutes les autres couleurs, on est bien plus
notre problématique, c'est vraiment les passerelles. Ouais. C'est notre problématique, c'est vraiment les passerelles. Et puis, c'est les 82 000 personnes qui viennent aux Utopiales.
C'était impressionnant. Voilà.
Ou les 30 000 qui viennent à Troll et Légendes. C'est de la fantaisie. On a des familles costumées, tout en princesse, là, maman et les trois filles. Et papa en jogging, hein, mais parce qu'il est venu, hein, mais c'est pas grave.
En jogging de prince.
Ouais, enfin.
Adidas.
Ouais, bandes. C'est ça, ouais. Trois bandes, quoi. Le réservoir est là. Le réservoir, il existe. Et nous sommes dans un monde de science-fiction et de fantaisie. Comment après les faire venir vers nous?
Et
j'ai le même problème avec Georges Martin. Georges Martin, il fait un truc genre le trône de fer. Ça marche. Moi, je fais des livres de Georges Martin. Ça marche moins bien. Voilà. Et beaucoup moins bien. Donc, on a souvent des problématiques de tuyauterie.
Oui.
Et on a souvent des problématiques d'information et d'initiation au public. Voilà. C'est un peu technique, hein, comme boulot, mais notre problème, il est là.
Quand on lit Jean-Philippe Jaworski, à peu près tout le monde pourrait prendre des leçons d'écriture. Quoi.
Ouais. C'est de la fantaisie.
Ou
Damasio, ou Alain Damasio, ouais. Mais regarde, Alain Damasio, il fait des conférences avec son petit micro, il y a 500, 800, 1000 personnes dans la salle.
En termes d'écriture, c'est...
Et ça roule, vraiment... évidemment. Évidemment. Donc si tu veux, moi je pense... Il y a des problématiques... Mais je pense que il n'y a pas que ces problématiques-là, et que parfois en décalant un petit peu le cadre, en fait, les choses sont en place et qu'il faut juste qu'on trouve des moyens pour les mettre en musique. Quoi. On a juste ça. On a des problématiques sur les médias, mais Télérama parle de science-fiction.
Ah bon,
France Info, ouais, de temps en temps. France Info parle
Ah ben ouais, il y a Frédéric Roussel.
Mais une fois de temps en temps. Mais après aussi, que représentons-nous, quoi? On présente 1000 bouquins en SF et en fantasy dans l'année sur 70 000 sorties. Quoi. Donc il faut aussi avoir des questions de proportion.
En tant que libraire, je dois aussi avouer que j'ai assez. J'ai beaucoup de rayons. J'ai lu beaucoup, j'en lis encore un peu, mais pour moi, dans les autres genres. Mais je reconnais aussi que le problème, c'est que je suis allé dans le libraire de la scène, et lui, il dit, mais moi, les romans, c'est une des âmes, je les mets sur la table littérature. Point barre, quoi.
Ouais.
Les gens, s'ils les voient, ils les voient là. Je crois que toujours ce voisinement fait qu'on passe à côté de choses, mais je suis sûr qu'on met du Damasio sur la
pile. Bien sûr.
Et des choses comme ça, des gens qui sortent en pile, dans rien que les gens, ils regarderaient, ils diraient, tiens, c'est peut-être intéressant.
Tu crois que c'est une couverture de science-fiction, ça?
Non, exactement.
Et en même temps.
Et franchement, c'est pas pour me vanter, mais il y a un certain nombre de gens qui étaient persuadés qu'ils n'aimaient pas la science-fiction. Et qui en tout cas n'en lisaient jamais, qui ont lu mes recueils précédents, qui étaient aussi parce que c'était des petits recueils, donc ils étaient prêts à tenter l'expérience, et qui m'ont dit, je ne sais pas si j'aime la science-fiction, mais en tout cas, toi, ce que j'écris, j'adore. Donc oui, une fois que le pas est franchi, les passerelles se font, mais c'est le premier pas qui est difficile.
Surtout s'il est aussi.
Et juste changer de table le bouquin, c'est sûr que ça peut suffire pour que la passerelle se fasse.
Ouais. Et voilà, et donc, c'était une grosse histoire. Et voilà, et on en dit
propose peut-être qu'on termine là, qu'on continue autour d'un verre.
Juste un truc, parce que quand on est dans les salons généralistes, avec des auteurs de littérature générale à côté, il y a des gens qui passent devant, comme ça. Je regarde les bouquins généraux.
Ils font des tours.
Ils ne sont pas radioactifs, nos livres.
Projet.
Non, mais c'est marrant, cette espèce de ou alors, maman, ça me fait peur.
Ou alors, c'est trop compliqué.
Ou alors,
ou alors c'est pour les jeunes. Enfin, en nous, on y a des a priori complètement contradictoires sur ce qu'on fait.
Ouais, là vous êtes mal tombé.
Ça va bien,
ouais,
bah, De ce texte. En deux mots, c'est une histoire que j'ai écrite pour parler. Alors là, on est en plein dans la question des relations amoureuses, et parce que j'avais besoin de comprendre comment un homme pouvait être sincèrement amoureux, honnête dans ce qu'il disait, et en même temps considérer la femme comme une créature inférieure.
C'est la fantaisie.
C'est un texte qui est, on peut dire qu'il est féministe, mais non, je ne comprenais pas comment il pouvait, avec autant d'évidence, se dire qu'elle était forcément inférieure à lui, que c'était à lui de tout décider, que c'était lui l'homme, donc le maître de leur destin, alors qu'en fait, c'était un type qui était bien plus enfermé dans sa tête qu'elle, et elle, c'est un dauphin génétiquement amélioré. Donc c'est pas un couple tout à fait traditionnel, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire, elle a la même intelligence, la même sensibilité qu'un être humain, même si c'est un dauphin. Et donc il y a une histoire d'amour qui se développe entre eux, mais qui est complètement parasitée par le fait qu'il la considère comme un être inférieur, qui d'un certain point de vue est légitime. Quand il lui dit « tu n'es qu'un animal », littéralement c'est vrai. Donc ça me permettait de mettre le lecteur dans une position tout à fait déroutante où il était obligé de se construire son propre point de vue sur la situation. Si j'avais mis un homme et une femme et que j'en avais fait un récit traditionnel, j'aurais pu, on aurait eu un avis tout fait sur la situation selon lequel il avait tort de penser comme il le faisait parce que les hommes et les femmes sont égaux, on a quelques principes tous dans la tête et j'aurais pas pu parler de ce sujet qui me touchait personnellement, et j'ai pu le faire d'une manière tout à fait différente, rien que parce qu'un des deux protagonistes était un dauphin génétiquement amélioré.
Est-ce qu'ils essaient de s'embrasser un moment ou pas ?
Ils font l'amour, mais c'est une histoire qui est extrêmement déchirante, qui a été très douloureuse à écrire pour moi, où je me suis mis dans la peau de l'homme, ce qui était un exercice étonnant, de mon point de vue. Dans la peau de l'homme qui considérait la femme comme une créature inférieure, et je voulais comprendre comment ça se passait dans sa tête. Oui, donc on fait des expériences de pensée extraordinaires avec la SF, mais en parlant de vrais sujets humains. Merci Sarah.
J'ai jamais oublié que le premier prix Goncourt est un livre de SF.
C'est vrai.
Force ennemie de Jean-Antoine Mou, 1903, avec une intelligence extraterrestre qui prend possession d'un humain, donc c'est vraiment la pure science-fiction.
On brise là ?